l'interprète convenablement. Voilà, je suis reconnaissant de cette solution judicieuse qui m'offre l'occasion d'être aussi une fois autrement qu'en transit à Limoges, puisqu'il m'est souvent arrivé de changer de train à Limoges ou de passer dans la région en voiture, mais pour aller plus loin. Alors cette fois-ci, on s'arrête. Après 15 séries à Brive. C'est bien, tout arrive une fois. Nous sommes très heureux de vivre ce temps ensemble, sous le regard de Dieu. Et je dois dire que je crains beaucoup parler de la langue, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais nous allons demander à Dieu de nous visiter. Je vous propose quelques lectures dans l'épître de Jacques, puisque je suppose que rien que le titre vous a orienté vers cet épître, l'épître de Jacques. Et ce que nous allons faire, c'est de simplement prendre les différents passages en introduction qui évoquent l'usage, l'utilisation de la langue. Au chapitre 1er et au verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Voilà un premier passage. Au verset 26 du même chapitre, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Chapitre 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et puis on arrive au chapitre central, au passage central, chapitre 3, des versets 1 à 12, qui va nous interpeller dans cette première étude d'introduction. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous recevrons un plus grand jugement. Nous bronchons, nous trébuchons, tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, mûr, adulte, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, sont domptées, ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Et puis enfin au chapitre 5 et au verset 12, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vous avez remarqué, hein, nous l'avons fait volontairement, dans cet épître éminemment pratique. Chaque chapitre nous met au moins une fois en face de l'usage, l'utilisation de la langue. La langue, ce petit membre, il y a cette insistance dans les versets 4 et 5, ce petit membre. Une dizaine de centimètres de long. Il ne pèse que 60 grammes environ. Je n'ai pas pesé la mienne, c'est ce que j'ai lu. Il reste la plupart du temps à l'abri des regards. Mais vous savez quel rôle joue la langue, notamment dans la production des sons vocaux. Il paraît que nous avons affaire à un acrobate, un gymnaste hors pair. J'ai lu un article très intéressant sur la langue. C'est impressionnant. Quelqu'un a fait cette remarque, bien que la langue ne pèse presque rien, bien peu de personnes sont capables de la tenir. D'après un spécialiste de renom, une personne normale utiliserait en moyenne 25 à 30 000 mots par jour. Imprimé, il représenterait un livre de quelque 150 pages. Ce qui laisserait sous-entendre qu'en moyenne, et tout ça je le sais est parfaitement discutable, nous parlons chacun 365 livres par an. Alors j'aimerais que dans cette première étude d'introduction, nous nous arrêtions sur l'importance de la langue. En nous appuyant en particulier sur un proverbe, Proverbe 18, verset 21, dans lequel Dieu le dit clairement, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai lu à quelque part l'histoire d'un philosophe grec qui, un jour, a commandé à son esclave un plat. Il lui a demandé de lui préparer le plat, mais le plat qui soit le meilleur que l'on puisse imaginer. Et son esclave de lui présenter de la langue, une langue. Et lui dit, eh bien, c'est le meilleur de tous les mets. Car avec la langue, nous pouvons réjouir, apporter le bonheur, dissiper le chagrin, chasser le désespoir, égayer celui qui est abattu, nous pouvons encourager, relever le moral de notre prochain. Quelque temps plus tard, le même philosophe de commander le plat le plus abominable qui soit à ce même esclave, et l'esclave de lui servir une langue et de lui dire, eh bien, c'est le pire des plats. Par le moyen de la langue, nous pouvons affliger, nous pouvons briser des cœurs, détruire une réputation, provoquer des discordes et des querelles entre familles, pousser des nations à la guerre. On a traduit un poème sur la langue. Bon, en français, ça ne donne pas la même chose, mais les idées fortes sont intéressantes. La langue charnue, si petite et si faible, peut écraser et tuer. C'est ce que déclarent les Grecs. Une langue longue raccourcit la vie, dit un proverbe perse. Parfois, ce proverbe prend une autre forme. Ne laisse pas ta langue te couper la tête. Les sages arabes disent: l'entrepôt de la langue est le cœur. Et de l'humour hébreu, voici la maxime: mieux vaut glisser du pied que de la langue. Vous avez peut-être lu le livre très intéressant de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Dans un autre de ses livres, Martin Gray de dire: les mots et la parole ont une force insoupçonnée. Ils sont la tourmente ou la brise, la pluie qui dévaste ou l'eau qui irrigue. Dans son introduction à la psychanalyse, Sigmund Freud décrit: les mots faisaient primitivement partie de la magie. Et de nos jours encore, le mot garde beaucoup de sa puissance de jadis. Avec des mots, un homme peut rendre son semblable heureux ou le pousser au désespoir. Les mots provoquent des émotions et constituent pour les hommes le moyen universel de s'influencer réciproquement. Ne cherchons donc pas à diminuer la valeur que peut présenter l'usage des mots. Encore un proverbe oriental: le mot que vous ne dites pas est votre esclave, le mot que vous dites est votre maître. Écoutez cette parole, alors je vais vous demander de m'en donner l'auteur. La puissance qui a mis en mouvement les plus grandes avalanches du pouvoir dans la politique et la religion et depuis le début des temps, la magie de la parole. Qui a bien pu dire de tels propos? C'est quelqu'un qui a mis en pratique ce qu'il disait, où il a pu constater l'effet de son langage.
Hitler.
Hitler, Mein Kampf. Ses propres discours délirants ont démontré la justesse de son point de vue. Dans le psaume 12 et au verset 5, psaume 12, verset 5, il est question des lèvres flatteuses et de la langue qui discourt avec arrogance au verset 4. Et au verset 5, il est question de ceux qui pensent qu'ils sont puissants, qui en sont même convaincus, ceux qui disent: nous sommes puissants par notre langue, Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Et on peut continuer, j'ai là sous les yeux, mais c'est écrit tellement petit que je ne vais pas vous le laisser parce que j'ai même moi-même du mal à le lire avec ces lunettes. C'est la chanson de Guy Béard qui s'intitule « Les mots ». Et il dit des choses impressionnantes. Mais si ça intéresse quelqu'un, il pourra le lire, mais c'est écrit tellement petit. Et j'avais relevé en mars 1996 à France Inter, dans une chronique du matin, toute une réflexion liée à un interview qui suivait un grand combat de boxe, championnat du monde, dans les jours précédents. Et le chroniqueur a dit à un moment donné, les mots peuvent faire l'effet d'un coup de poing. Rien qu'un mot de colère. Mais il a blessé un cœur sensible. Rien qu'un mot de dur reproche, mais il a fait couler des larmes. Rien qu'un mot impatient et irréfléchi, mais il assombrit un jour qui s'annonçait glorieux. Rien qu'un mot malveillant et moqueur, mais la guêpe a laissé son aiguillon. Rien qu'un mot de bonté, mais il a soulagé un cœur qui souffrait. Rien qu'un mot de sympathie, mais une âme en détresse a été consolée. Rien qu'un mot d'encouragement, mais un chemin obscur a été illuminé. Rien qu'un mot d'espérance et de foi, et le jour tout entier en a été transformé. L'importance de la langue. Alors, vous avez remarqué que dans notre texte de Jacques 3, il est dit au verset 10 que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il est question d'eau douce et d'eau amère, un peu plus bas au verset 11. Alors, j'aimerais simplement, comme ça au passage, citer quelques extraits du livre des Proverbes sur l'eau douce de la bénédiction. D'ailleurs, si nous voulons faire une bonne cure concernant l'utilisation de notre langue, vous le savez, c'est en particulier vers le livre des Proverbes qu'il faut se tourner. J'ai relevé personnellement 143 versets directs. Je ne dis pas ceux qui traitent du sujet par la bande, mais qui traitent très directement du sujet de la langue. On peut relever les mots langue, lèvres, bouche près de 150 fois dans ce livre, c'est-à-dire approximativement 5 fois par chapitre. Donc il vaut la peine, de temps en temps, et ça tombe bien puisqu'il existe des mois de 31 jours, ça colle bien avec le nombre de chapitres des Proverbes, alors de temps en temps on fait une bonne cure du livre des Proverbes et ça remet certaines choses en place. Alors dans l'eau douce de la bénédiction, voici quelques échantillons du livre des Proverbes. La bouche du juste est une source de vie, 10-11. La langue du juste est un argent de choix, 10-20. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, 10-21. La bouche des hommes droits est une délivrance, chapitre 12, verset 6. La langue des sages apporte la guérison, 12-18. Le témoin véridique délivre les âmes, 14-25. La langue douce est un arbre de vie, 15-4. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme, salutaire pour le corps, 16-24. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos, 25-11. Quelques éléments de ce livre des Proverbes sur l'eau douce de la bénédiction. Et j'ai cherché dans mon fichier quelques applications de cette eau douce de la bénédiction. Et j'ai trouvé notamment un texte très intéressant. Il s'agit du témoignage de l'auteur de plusieurs livres traduits en français, Larry Crabb, qui approche toutes sortes de problèmes de psychologie, mais avec le souci d'aller vers les Écritures d'abord. Et en tout cas, dans un de ses livres, il raconte une expérience qui a été un tournant dans sa vie, donc une expérience qui a produit des résultats permanents dans sa vie, comme il le dit. Quand j'étais jeune, j'avais un problème extrêmement ennuyeux et humiliant de bégaiement. Tous ceux qui souffrent de cette curieuse infirmité peuvent vous dire que certains sons et certaines lettres sont particulièrement difficiles à prononcer. Pour moi, les deux lettres pénibles étaient le L et le P. Je m'appelle Larry et j'ai fait mes études secondaires au collège de Plymouth, White Marsh, en Pennsylvanie. En troisième, on m'a élu président de l'association des élèves. Pendant l'assemblée plénière des classes de 5e, 4e et 3e, plusieurs centaines d'élèves, le principal me fit signe de le rejoindre sur l'estrade pour la cérémonie d'installation. Me voilà debout, nerveux, crispé, face à cette foule qui s'ennuyait ferme, ayant à répéter après le principal les mots suivants: moi, Larry Crabb, du collège Plymouth, je promets ici, etc. Du moins, c'est ainsi que le principal l'énonçait. Ma propre version fut quelque peu différente à cause de mon bégaiement. Le principal était aussi autant rempli de sympathie que de confusion. Mon professeur d'anglais favori avait envie de pleurer. Quelques étudiants se mirent à rire bruyamment. La plupart hésitaient entre l'embarras et l'amusement. Certains se sentaient gênés pour moi. Je souffrais mille morts. Je décidais à l'instant qu'il était exclu que je parle à nouveau en public. Peu de temps après, dans mon église, on célébrait la Sainte Cène au culte du dimanche matin. Il était d'usage dans notre assemblée d'encourager les jeunes gens à user du privilège de l'adoration en se levant pour prier à haute voix. Ce dimanche-là, je ressentis l'influence pressante des fidèles, et non, je le crains, la direction de l'esprit, et je répondis avec hésitation, me levant de mon siège pour la première fois dans l'intention de prier. Moins rempli d'adoration que de nervosité, je sentis ma théologie se troubler jusqu'à l'hérésie. Je me souviens avoir remercié le Père d'être mort sur la croix et louant le Christ d'avoir triomphalement fait sortir l'esprit du sépulcre. Bégayant d'un bout à l'autre, je me souvins finalement du mot « Amen », peut-être le premier signe de la direction de l'esprit. Je le prononçai et me rassis. Je fixai le plancher, trop embarrassé pour regarder autour de moi, et fis le vœu solennel de ne jamais plus parler ou prier devant un auditoire. Deux désastres suffisaient. À la fin du culte, je fonçai vers la porte, peu désireux de rencontrer un aîné qui se sentirait obligé de rectifier ma théologie pervertie. Mais je n'avais pas été assez rapide. Un chrétien âgé me coupa la route, mit son bras sur mon épaule, se gratta la gorge avant de parler. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là, « Nous y voilà. Eh bien, tu n'as qu'à le supporter. Après quoi, saute dans ta voiture. » J'écoutais ensuite cette pieuse personne prononcer des paroles que je peux répéter mot pour mot aujourd'hui, plus de 20 ans après. « Larry, me dit-il, il y a une chose que je veux que tu saches. Quoi que tu fasses pour le Seigneur, je suis derrière toi à 100%. » Puis il s'en alla. Même maintenant, tandis que j'écris ces lignes, mes yeux se remplissent de larmes. Je ne suis toujours pas arrivé à raconter cette histoire à un auditoire sans que, pour le moins, ma voix s'étrangle d'émotion. Ces paroles étaient des paroles vivifiantes, elles étaient puissantes. Elles ont profondément pénétré en moi. Ma résolution de ne jamais parler en public s'atténua instantanément. Depuis le jour où ces mots furent prononcés, Dieu m'a dirigé vers un ministère où je parle et prie régulièrement devant des foules grandes ou petites. Je le fais sans bégayer, j'aime ce que je fais. Non seulement la mort, mais la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà un premier exemple. Un second, où il y a la langue et l'écrit qui se côtoient, mais vous savez que l'écrit n'est que la projection sur le papier de ce que la langue dirait si elle ne se posait pas sur le papier. C'est aussi très touchant. Il s'agit d'un enfant, Teddy Stalar, qui n'avait aucun intérêt pour l'école. Histoire authentique. Des vêtements froissés qui sentaient le moisi. Les cheveux toujours en bataille. Un de ces enfants au visage figé, sans expression. Une sorte de regard vitreux, hagard. Quand Mademoiselle Thompson, l'institutrice, parlait à Teddy, il lui répondait toujours par monosyllabes. Il était sans attrait, sans motivation, distant. Rien ne portait à l'aimer. Lorsque son institutrice affirmait qu'elle l'aimait de la même manière, tous les élèves de sa classe, qu'elle aimait de la même manière tous les élèves de sa classe, au fond d'elle-même, elle n'était pas tout à fait honnête. Chaque fois qu'elle notait les copies de Teddy, elle prenait un malin plaisir à inscrire une croix à côté des réponses fausses, et quand elle marquait une mauvaise note en haut du devoir, invariablement, elle le soulignait. Elle aurait dû adopter une attitude plus compréhensive. Elle détenait le livret scolaire de Teddy. Et elle en savait plus sur lui qu'elle ne voulait l'admettre. On y lisait 11e, travail et comportement prometteur, mais conditions familiales déplorables. 10e, Teddy pourrait mieux faire, mère très gravement malade, reçoit peu d'aide à la maison. 9e, Teddy est un gentil garçon, mais trop sérieux, il apprend lentement, sa mère est décédée cette année. 8e, Teddy est très lent, mais il a un très bon comportement, son père ne lui manifeste aucun intérêt. Noël arriva. Les garçons et les filles de la classe de Mademoiselle Thompson lui apportèrent leurs cadeaux. Ils déposèrent les paquets sur le bureau et se rassemblèrent autour pendant qu'elle les ouvrait. Parmi tous ces cadeaux, il y en avait un de Teddy. Elle fut surprise qu'il lui ait apporté un cadeau. Le cadeau de Teddy était enveloppé dans du papier brun d'emballage retenu par un bout de scotch. Sur le papier, ces simples mots: pour Mademoiselle Thompson, de la part de Teddy. Quand elle ouvrit le paquet de Teddy, il s'en échappa un bracelet clinquant auquel il manquait la moitié des pierres et un flacon d'eau de toilette bon marché. Les autres enfants commencèrent à glousser, à se moquer des cadeaux de Teddy. Mais Mademoiselle Thompson eut cette fois assez de bon sens pour les faire taire en mettant aussitôt le bracelet et en versant quelques gouttes d'eau de toilette sur son poignet. Elle fit sentir son poignet aux autres enfants et dit « Sentez comme ça sent bon !» Alors les enfants, suivant l'exemple de leur institutrice, acquiescèrent spontanément par des « Ah oh !» À la fin de la journée, une fois l'école terminée, les autres enfants partis, Teddy s'attarda dans la salle de classe. Il s'approcha lentement du bureau et souffla doucement « Mademoiselle Thompson !»« Mademoiselle Thompson !» Vous sentez exactement comme ma mère. Et son bracelet est très joli à votre poignet. Je suis content que vous ayez aimé mes cadeaux. Quand Teddy l'eut quitté, Mademoiselle Thompson tomba à genoux et demanda à Dieu de lui pardonner. Le lendemain, quand les enfants retournèrent en classe, ils furent accueillis par une nouvelle institutrice. Mademoiselle Thompson était devenue une personne différente. Elle n'était plus une simple institutrice, elle était devenue un agent de Dieu. Elle était désormais une personne décidée à aimer ses élèves et à faire pour eux des choses qui resteraient gravées à jamais dans leur vie. Elle aidait tous les enfants, mais surtout ceux qui étaient lents, tout spécialement Teddy. À la fin de cette année scolaire, Teddy avait fait des progrès considérables. Il avait rattrapé la plupart des élèves et en avait même dépassé certains. Elle n'entendit plus parler de Teddy pendant longtemps. Puis un jour, elle reçut un petit mot qui disait « Chère Mademoiselle Thompson, je voulais que vous soyez la première à le savoir. Je vais obtenir mon diplôme, je suis seconde de ma classe. Affectueusement, Teddy Stellar. 4 ans plus tard, une autre lettre arriva. « Chère Mademoiselle Thompson, je viens d'apprendre que je vais finir premier de ma promotion. Je voulais que vous soyez la première à le savoir. L'université n'a pas été facile, mais j'ai bien aimé ça. Affectueusement, Teddy Stellar. » Puis, 4 ans encore plus tard, « Chère Mademoiselle Thompson, aujourd'hui je suis Théodore Stellar, docteur en médecine. Qu'en dites-vous ? Je voulais que vous soyez la première à le savoir. Je me marie le mois prochain, le 27 pour être plus précis. Je veux que vous veniez et que vous vous asseyiez là où se serait assise ma mère si elle avait été vivante. Vous êtes la seule famille qui me reste maintenant. Papa est décédé l'année dernière. Affectueusement, Teddy Stellar. » Mademoiselle Thompson se rendit à ce mariage et s'assit là où se serait assise la mère de Teddy. Elle méritait de s'asseoir là. Elle avait fait pour Teddy une chose qu'il n'oublierait jamais. 2 exemples. 2 petites choses qui peuvent orienter une vie complètement et qui partent du langage, de l'écrit, et qui ensuite se traduisent aussi dans toutes sortes de gestes. L'eau douce de la bénédiction. Mais il y a aussi dans Jacques, au chapitre 3, l'eau amère. L'eau amère de la malédiction, avec des images très très fortes. Il est question au verset 5 d'un feu, d'un petit feu qui embrase une grande forêt. La langue est aussi un feu. Elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne, le feu du jugement dernier de l'enfer, embrasé par l'enfer, par la gêne, par le diable, diabolos, qui vient de diaballo, jeté en travers, d'où divisé, accusé, calomnié. Le calomniateur qui désunit, qui divise, qui sème la discorde, qui met la brouille, qui sème la zizanie. Et vous savez que dans les paraboles de Matthieu 13, il y a la parabole de l'ivraie, et le terme grec qui a été rendu par le mot ivraie, c'est le mot zizania. La zizanie vient de là, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Le mot « ivraie », lui, en réalité, vient d'un mot latin qui fait partie de la famille du mot « ivresse », tout simplement parce que l'ivraie, quand elle était accidentellement consommée, puisque en croissant, elle ressemblait de plus en plus au blé, au froment, n'est-ce pas, l'ivraie produisait une sorte d'ivresse chez ceux qui la consommaient, tout en étant d'ailleurs un poison absolument redoutable, la zizanie. Ça me fait penser à Astérix. Hein? Et la zizanie, ce petit personnage un peu verdâtre, là, hein? Et qui est utilisé par Rome pour diviser le village de ces Gaulois, normalement toujours vainqueurs, n'est-ce pas ? Comment faire pour réussir à enfoncer un coin dans l'unité belliqueuse et puissante de ce village. Alors, on introduit le personnage qui crée la brouille. Alors, là aussi, quelques textes du livre des Proverbes. Par sa bouche, l'impie veut exterminer son prochain. chapitre 11, verset 9. Les paroles du méchant sont des embûches pour verser le sang, chapitre 12, verset 6. Tels qui parlent légèrement blessent comme un glaive, 12, 18. La langue perverse brise l'âme, 15, 4. Il y a sur les lèvres de l'homme pervers comme un feu ardent, 16, 27. La langue fausse hait ce qu'elle écrase, 26, 28. La bouche des méchants dévore l'iniquité, 19, 28. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. C'est dans le prophète Jérémie. Jérémie a énormément eu à souffrir de la médisance et de la calomnie, y compris de sa propre famille. Leur langue est une flèche affilée, chapitre 9, verset 8. Venez, tuons-le avec la langue, chapitre 18, verset 18. Complot de sa parenté dans le petit village d'Anatote, à quelques lieues de Jérusalem. Tuons-le avec la langue. Semblable au croc des serpents, de la vipère, nous dit le texte. Il est question de reptiles, n'est-ce pas, dans ce texte aussi. Pleine d'un venin mortel, un organe qui sème la mort par empoisonnement. Et là, on relève Romains chapitre 3, c'est intéressant. Nous reviendrons sur l'épître aux Romains. Romains chapitre 3, dans cette culpabilité de l'humanité tout entière au regard de Dieu, il y a cette description à partir du verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui pratique le bien de manière régulière. C'est composé au présent, donc le présent en grec est un temps qui indique la durée, la pratique habituelle. Il n'en est aucun qui pratique le bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici et là des élans, n'est-ce pas, mais la pratique habituelle du bien échappe à l'homme naturel, pas même un seul. Alors cette insistance ensuite sur tout cet appareil autour duquel tourne le langage, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Quatre descriptions. Puis ensuite, il est question des pieds, et puis il est question des yeux. Mais vous remarquez la prépondérance d'une langue et de tous ces organes qui tournent autour de la bouche. Et qui sont complètement souillés par le péché. Jésus a été crucifié sur la déposition de calomniateurs, Matthieu 26, 59 à 61. Étienne a été lapidé sur la déposition de calomniateurs, Actes 6, 11. Paul a été emprisonné sur la déposition de faux témoins, Actes 21. Et nous pourrions ainsi continuer. J'ai sous les yeux cet extrait d'un ouvrage que je lis en ce moment. La langue, c'est nous, d'une façon bien unique. C'est une commère qui trahit le cœur et dévoile la vraie personne. De plus, le mauvais usage de la langue est peut-être le péché le plus facile à commettre. Il y a des péchés qu'on ne peut pas pouvoir commettre uniquement parce qu'on n'en a pas l'occasion. Mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut dire, pas de contrainte ni de frontière inhérente. Dans l'Écriture, la langue est à divers moments décrite comme méchante, trompeuse, perverse, souillée, corrompue, flatteuse, médisante, bavarde, blasphématoire, insensée, vantarde, géniarde, maudissante, querelleuse, sensuelle et vile. Et cette liste n'est pas exhaustive. Pas étonnant que Dieu ait placé la langue dans une cage, derrière les dents, enfermée dans la bouche. À l'aide d'une autre image, quelqu'un a fait remarquer que parce que la langue est dans un endroit mouillé, elle peut facilement glisser. Quel contraste, hein, avec ce que nous avons exprimé tout à l'heure. Et là, je pense aux dégâts liés à l'usage de notre langue en tant que disciple de Jésus-Christ. Et je crois que nous avons souvent de grands problèmes dans l'Église de Jésus-Christ avec la langue. Et nous avons souvent de grands problèmes, tout comme avec l'oreille, parce que nous avons des certitudes, parce que nous avons dans la parole de Dieu des affirmations extraordinaires, et que nous sommes tentés d'asséner avec une certaine puissance, une certaine violence, les vérités dans lesquelles nous croyons. Et je suis frappé de voir dans mes déplacements, dans les entretiens, combien il y a de souffrance au sein du peuple de Dieu, simplement à cause de ce problème. Et vous savez que ça peut aller si loin au nom de nos doctrines. Alors, c'est déjà problématique quand la doctrine est juste. Si nous l'assénons extrêmement fort, mais combien c'est dramatique quand en plus nous le faisons avec une doctrine qui est déséquilibrée. Moi, je pense ici à un ami, nous avons travaillé en Bretagne pendant une dizaine d'années et nous avions une annexe à 25 km du lieu principal de réunion, et dans cette annexe, sous la salle de réunion, il y avait un appartement dans lequel nous logions depuis des années un ami célibataire qui avait un peu plus de 40 ans et qui était aveugle. C'était un croyant remarquable. Nous étions édifiés par la beauté de son témoignage. Un jour, après une rencontre comme celle-ci, une étude biblique autour d'une table dans cet appartement, alors que tout le monde avait quitté cette pièce, j'étais le dernier à partir, et au moment où je le saluais, il m'arrêta et il demanda à me parler. Et j'avais l'impression que ça devait être grave, parce que même dans ce visage aux yeux particuliers, je sentais une détresse absolument incroyable. Et il me dit, écoutez, Monsieur Decker, est-ce que je suis aveugle parce que j'ai un démon? Et je sentais un homme, mais complètement meurtri. Et j'ai donc compris, il m'a longuement expliqué ce qui s'était passé, comment une personne, d'ailleurs au service de Dieu, à plein temps, qui venait de le rencontrer dans les moments précédents, lui avait laissé entendre qu'il était aveugle parce qu'il avait un démon. Je peux vous dire que ce cher frère ne s'est jamais relevé de cette réflexion. Son hypersensibilité est liée à sa cécité. Et cette flèche de véritable curare d'une mauvaise spiritualité l'ont amené à se recroqueviller sur lui-même. Et il est décédé quelques années plus tard, profondément malheureux. Nous ne savons pas l'influence que peuvent avoir certaines de nos affirmations, certains de nos jugements. Je ne vous dirai pas où, mais j'ai eu l'occasion à deux reprises d'être l'invité d'une sorte de convention organisée par la mission évangélique Braille, donc qui s'occupe des non-voyants, pour les aider, leur annoncer l'évangile. Et le responsable de cette organisation, mission évangélique Braille, qui est un ami très proche, m'a raconté les problèmes qu'il a eu un soir avec un orateur qui était invité pour une soirée un peu particulière, et pasteur d'une église de Pentecôte, qui avait en face de lui une centaine de personnes, dont une cinquantaine de non-voyants, avec les chiens également, et qui, après toute une entrée en matière très très intéressante, à un moment donné s'est arrêté et a dit à ces personnes, dont un certain nombre n'était même pas converti à Jésus-Christ, « Vous pouvez, ce soir, quitter cet endroit en ayant recouvré la vue. » Et il a enchaîné là-dessus. Heureusement, très rapidement, mon ami est intervenu, a repris la parole, l'a arrêté, lui a demandé d'aller s'asseoir. Mais vous imaginez les dégâts que l'on peut faire au nom de ses convictions. Au nom de ses convictions. Ce sont deux exemples. Mais nous ne savons pas parfois le mal que nous faisons. Nous pouvons blesser des personnes et ça peut ensuite laisser des traces pendant des années. J'ai relevé moi-même dans mon étude du Nouveau Testament, pour le moment, 25 expressions dans le texte original, dans le texte grec, qui évoquent directement le mauvais usage de la langue. J'ai d'ailleurs la liste avec moi. C'est impressionnant. 25 mots différents qui sont utilisés simplement pour parler de l'utilisation directe de notre langue. Donc je tenais, dans cette introduction, à placer devant nous l'importance de la langue en montrant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous avons vu l'eau douce de la bénédiction et comment une vie peut être complètement orientée différemment, peut devenir belle. Il peut y avoir des répercussions à très long terme en fonction parfois de quelques mots qui dénotent d'une certaine attitude et combien on peut avoir un comportement léger dans l'utilisation de notre langue et meurtrir des cœurs pendant longtemps. Voilà simplement ce que je voulais partager. Je crois que nous allons nous arrêter là dans cette introduction, parce que si je commence à développer la suite, cela va nous prendre du temps, alors nous allons le voir demain après-midi. Je crois que nous avons déjà assez à méditer. J'ai sous les yeux cette dernière petite fiche. Il s'agit du contenu d'un testament. Et là encore, c'est de l'écriture, mais c'est l'expression qui pourrait passer par la langue. Un testament qui a été écrit en 1935. Voilà ce qu'il contient. À mes deux filles, France Marie et Denise Victoria, en raison de leur attitude peu filiale envers un père qui les adore, je laisse la somme de 1 $ à chacune, ainsi que la malédiction d'un père. Que leur vie soit empreinte de misère, de malheur et de chagrin profond. Que leur mort sonne bientôt et qu'elle soit de nature maligne et torturante. Puisse leurs âmes reposer en enfer et souffrir les tourments des condamnés pour l'éternité. Voilà le contenu d'un testament. On peut aussi tuer avec le stylo, n'est-ce pas? Et là aussi, nous devons nous en souvenir. Souvent, comme nous parlons, nous sommes capables d'écrire. Et aujourd'hui, le grand piège, c'est que nous pouvons faire toutes ces choses très vite. Vous voyez, autrefois, quand il n'y avait pas le fax, quand il n'y avait pas Internet, les emails, courriers électroniques, on écrivait une lettre et puis on se disait, tiens, je ne vais pas l'expédier ce soir. Je vais laisser passer la nuit dessus. Ça me donnera l'occasion de prendre du recul, de prier, et puis demain matin, je verrai. Et le lendemain matin, combien de fois il m'est arrivé personnellement de déchirer une lettre écrite la veille. Parce qu'entre-temps, je m'étais rendu compte que ma première réaction était épidermique et je risquais de faire beaucoup plus de mal que de bien. Ben aujourd'hui, hein, déjà le téléphone est problématique. Mais on a tant de moyens aujourd'hui qui vous permettent de réagir comme ça, hein, à brûle-pourpoint. Mais une fois que le mot est parti, il est parti. Et on peut toujours essayer de rattraper, le mot est parti, n'est-ce pas? Et je m'arrête là pour que nous réfléchissions déjà dans nos vies à l'eau douce de la bénédiction et l'eau amère de la malédiction. C'est peut-être l'occasion de dire, Seigneur, je te demande pardon pour telle réaction, pour tel coup de téléphone, pour tel courrier, pour telle attitude d'emportement, telle parole légère. Et Seigneur, apprends-moi à être comme cette institutrice ou comme ce chrétien âgé qui est allé vers la ricrabe. Une petite chose, mais qui a eu une importance capitale dans la vie, en tout cas de deux personnes. Je bénis Dieu pour ceux et celles qu'il a placés sur ma route et qui ont su utiliser le mot juste et m'encourager au moment où j'en avais besoin. Nous voulons prier. Seigneur, oui, c'est vrai, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous l'avons constaté ce soir à travers ta parole et dans les exemples que nous avons partagés. Et nous voulons être sérieux avec ta parole, comme le dit l'épître de Jacques, non pas nous borner à être des auditeurs, mais nous voulons mettre en pratique. Seigneur, tu sais que nous sommes dans un monde où nous faisons beaucoup de choses très vite, où la rapidité compte, où les moyens qui sont mis à notre portée peuvent aussi devenir de terribles pièges. Pardon pour les coups de téléphone trop rapidement donnés. Pardon pour les ripostes sans prendre du recul. Pardon pour toutes les fois où notre langue a donné aux autres une eau amère à boire. Merci Seigneur pour toutes les fois où nous avons pu apporter en ton nom simplement une parole de bénédiction, une parole d'eau douce. Seigneur, apprends-moi, maîtrise-moi. Merci de nous visiter, utilise ce temps que nous passons ensemble, ce week-end, pour nous aider aussi à faire le point. Tu sais, peut-être, les ornières profondes dans lesquelles nous nous installons dans le domaine de l'utilisation de la langue, les habitudes que nous prenons, les habitudes de critiquer tout le temps, de plaisanter tout le temps, et tant d'autres encore, tu sais, Seigneur. Visite-nous. Permets que nous puissions devant toi, dimanche, quand nous nous quitterons, reconnaître que tu nous as rencontrés pratiquement, concrètement, dans l'utilisation de cet organe. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon si nous sommes droits de cœur en venant dans ta présence. Mets ton sceau à tout ce que nous avons partagé ce soir et prépare les différentes rencontres de demain et de dimanche. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.